Les manettes à la baguette sur RCN. Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans ce second épisode. Bon, on ne va pas se mentir, le jeu vidéo ce n'est pas exclusivement, mais assez souvent pour se battre et affronter des amis ou des inconnus. Chez soi, dans sa chambre, souvent dans son salon, en direct ou en ligne. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est le thème que nous traiterons dans cet épisode, les musiques de combat. Préambule. J'indique cependant, je n'aurai absolument pas assez du temps de toute cette émission pour balayer l'entièreté du sujet. C'est impossible, je pense même que nous y reviendrons dans des épisodes à venir et sur des caractéristiques encore plus spécifiques que propose ce passionnant sujet. Mais ce que nous allons faire déjà dans cette émission, c'est brosser une partie des types de musique qui accompagnent les amateurs de coups hauts, blocage bas, sans oublier d'écouter aussi quelques extraits qu'on peut entendre dans les autres styles d'affrontement issus du jeu qui proposent des batailles. Un épisode donc qui sera résolument jeu vidéo. En guise d'introduction, sachez que je manquerai à tous mes devoirs radiophoniques envers vous et cette émission si je n'évoquais pas en toute première position l'icône indétrônable des jeux de combat, le père de dizaines et dizaines de licences inspirées par lui, j'ai nommé Street Fighter 2. Sorti en 1991, il n'est certes pas le premier jeu de combat de l'histoire du jeu vidéo, mais celui qui a révolutionné et inspiré toute une génération de joueurs et de futurs développeurs. À telle enseigne d'ailleurs qu'il s'est vendu à 6,3 millions de copies lors de sa sortie et qu'il continue de sortir régulièrement dans de nouvelles itérations et sur des consoles plus récentes que celles où il fut proposé à l'origine. Le concept est éprouvé mais simple et efficace. Des combats en versus, c'est-à-dire un contre un, dans un des environnements localisés partout sur la surface du globe. À la baguette, on retrouve Yoko Shimomura, dont on reparlera probablement également dans de futures émissions. Car elle est l'une des reines, pour ne pas dire papesse de la musique du jeu vidéo, tant son travail est inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la musique de jeu vidéo. Je peux citer parmi ses œuvres suivantes la bande originale de Kingdom Hearts 2, Parasite Eve ou bien encore Legend of Mana. Le plus intéressant pour Street Fighter 2, c'est qu'il s'agissait là de son tout premier travail chez Capcom qui venait tout juste de l'embaucher. Et elle a rendu un travail qui a institué par la suite une grille de critères incontournables pour composer des musiques de combat, à savoir un thème par personnage, facilement reconnaissable, et des influences liées à ses origines ou à son histoire. Pour cette entrée en matière donc, j'ai choisi de vous faire écouter le thème de Guile. Attention, comme vous vous en doutez probablement, et je ne vous le répéterai jamais assez souvent dans nos épisodes, les capacités sonores des consoles d'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui qui ne sont limitées par rien pour faire du son. En effet, à l'époque, il s'agissait en grande partie de puces internes à la console qui produisaient leur son, et non pas d'enregistrements sur support plus pratique comme le CD qui lui n'arrivera que pendant l'ère 3D des consoles. Or, nous écouterons ici la version de la CPS2, borne d'arcade sur laquelle l'extrait qui va suivre est paru en 1993. Nous l'entendrons dans son jus, Guile's Theme.
Thank you.
Cela devient de plus en plus répandu, mais il faut tout de même le souligner. Le jeu vidéo est entré depuis plusieurs années maintenant dans le monde des tournois professionnels, avec des ligues officielles, des joueurs internationalement reconnus dans le secteur de ce qu'il convient désormais d'appeler le e-sport. Les jeux de combat font naturellement partie intégrante de ces compétitions de haute volée dont les cash prizes et les renommées n'auront bientôt plus rien à envier aux autres sports, fussent-ils olympiques. Bref, la licence Street Fighter a fait sortir du bois dans les années 90 ses super joueurs, des pro-gamers devrais-je dire, maîtrisant des techniques incroyables et réputées imbattables parmi vos voisins de quartier ou vos camarades de bornes d'arcade. Et s'il est une licence qui répond aux spécificités dont je viens de parler, c'est bien Tekken. Sorti pour la première fois en 1994, au démarrage de l'ère de la 3D, Tekken a su s'imposer comme un incontournable du genre en sachant surfer sur les modes des époques que la série traversait. La variété des styles de combat proposés, des personnages jouables avec leurs caractéristiques propres à transcender le gameplay des jeux de combat dont Tekken manie la grammaire avec un grand savoir-faire depuis plus de 20 ans. Il serait complexe de vous citer un seul compositeur pour cette série qui a fait appel à un nombre incroyable de talents différents issus des scènes électro, mais pas que. Cependant, pour illustrer de manière presque quasi classique, aurais-je envie de dire ce qu'est une musique de jeu de combat, la musique de la série des Tekken remplit à la lettre les critères à respecter que nous avions entamés dans l'extrait précédent. Il nous faut donc du dynamisme avant tout, des rythmes entêtants, réduisant les mélodies à l'essentiel et du transfert d'énergie quasiment à l'état pur. Nous écouterons donc le titre Crimson Sunset, issu de Tekken 5, des compositeurs Akitaka Toyama Ryo, Amamoto, Satoru Kozaki, Yoshihito Yano et Yumi Yake. Impossible pour moi de vous dire qui a fait quoi, mais je puis vous assurer que c'est merveilleusement produit. Je veux parler maintenant d'un coup de cœur de ma bibliothèque musicale d'enfance, et ce ne sera pas la dernière fois. Bon, je dois vous avouer que les jeux de combat n'ont pas fait les plus belles heures de ma jeunesse vidéoludique. Certes, sauf, eh bien sauf un. Soul Calibur. J'ai toujours affectionné ce jeu pour ceux qu'on pouvait s'y affronter avec des armes classiques plutôt qu'avec exclusivement ses poings ou ses pieds, et que chaque personnage fourbissait la sienne, lance, bâton, épée, hache, rapière, chaque arme étant liée à son extraction géographique ou totalement originale. Soul Calibur, développé par Namco, est sorti sur Dreamcast, une console au destin tragique. Mais il est l'un des seuls jeux vidéo à avoir reçu une note parfaite sur IGN et GameSpot, deux agrégateurs critiques et mythiques du jeu vidéo. Bénéficiant aussi de la note parfaite sur Famitsu, un équivalent nippon, il se classe comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps qui a révélé ce que Sega savait faire de mieux. L'itération dont je veux vous passer un titre est Soul Calibur 2, sa suite, sortie sur arcade, GameCube et PlayStation 2, avant des portages quelques années après sur des consoles plus récentes. Ryo Hamamoto, qui a composé la partition de ce jeu, est un habitué des jeux de combat. Il aura notamment composé pour Tekken 7 ou Ace Combat, dont nous reparlerons plus tard. Mais fort originalement ici, le théâtre de l'histoire prend place dans un passé réimaginé où la musique devra faire appel cette fois à des tonalités plus orchestrales, voire légendaires, et pour autant emporter le joueur dans un vent de maestria technique pour sortir gagnant de ses combats un contre un. Une Madeleine de Proust pour moi, donc, avec deux extraits à la suite que nous écouterons. Guided by Wind, de Ryo Hamamoto, suivi de Lionhearted, par Shuri Misaki, qui prête son concours à l'opus 6 dans le même esprit épique, un souffle d'affrontement légendaire.
Thank you.
Les manettes à la baguette sur RCN.
L'heure est venue de vous parler de Mortal Kombat. D'une part parce que c'est une licence impossible à passer sous silence dans notre thématique et parce qu'il est certain que vous avez déjà entendu parler au moins une fois de ce jeu. Ne serait-ce que par son adaptation cinématographique de 1995 avec la performance inoubliable de Christophe Lambert dans le rôle de Raiden. Pour les plus néophytes d'entre vous, son célèbre rire dans le film est devenu un mème et un running gag viral d'internet. Bref, cette licence est sortie un an après Street Fighter 2 dont nous avons parlé en début d'émission. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se démarqua fortement et rapidement par un point qui fit grande polémique en son temps. Son hyper-violence, rendue plus réaliste encore par le fait que l'affichage des personnages était une reproduction photo-animée de vrais acteurs. Le sang affiché à l'écran fut même recolorisé en bleu dans certaines régions d'export pour ne pas choquer les ménages. À sa manière tranchée, Mortal Kombat a lui aussi écrit les pages les plus glorieuses des jeux de combat pour se hisser comme un jeu incontournable qui s'enorgueillit d'un 11e titre sorti récemment sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Si c'est à Dan Forden que l'on doit la première partition tout à fait iconique du premier jeu culte, il s'y fera remarquer par des créations assez sombres et oppressantes, de qualité rendue plus efficace encore par les limitations techniques des consoles dont j'ai déjà parlé pour les premiers opus. J'aurais pu tomber dans la facilité et vous faire entendre le célèbre thème qu'on peut retrouver dans l'adaptation de ce jeu, première mouture cinématographique. Mais pour coller avec la sortie du tout dernier film de 2021, je vais vous faire entendre la version du titre éponyme Mortal Kombat dans son habillage Technosyndrome par Benjamin Wolfish, un compositeur de film donc particulièrement prolixe et dont on reparlera sans nul doute dans nos émissions. Voici son Mortal Kombat Technosyndrome issu du film de 2021. Comment ne pas vous parler maintenant de Super Smash Bros. Si ce nom ne vous dit rien, imaginez Nintendo, entreprise qui possède un nombre incroyable de licences à succès comme Mario Bros, Donkey Kong, Legend of Zelda ou encore Pokémon, pour n'en citer qu'un nombre infinitésimal. Mélangez tous ces personnages et réchauffez-les à la sauce du jeu vidéo de combat plateforme pour aboutir à un succès planétaire. Sorte de party game géant où tout le monde peut s'affronter pour qu'il n'en reste qu'un seul sur le plateau de jeu pour triompher. Avec cette recette gagnante, la série des Super Smash Bros. A démarré son histoire en 1998 sur Nintendo 64 et l'engouement qu'elle a provoqué chez les fans de Nintendo ne s'est jamais vraiment essoufflé, incluant le dernier titre en date sur Nintendo Switch qui comporte pas moins de 82 personnages jouables, en comptant d'autres licences célèbres du jeu vidéo comme Sonic ou Solid Snake des Metal Gear. Il est fort complexe de choisir une seule musique parmi toutes celles qui sont présentes dans le jeu, au vu du nombre d'univers qui s'entremêlent et se combattent dans ce titre. C'est assez dantesque. On compte plus de 400 pistes dans la bande originale, dont bon nombre de remixes ou de covers d'une incomparable qualité dans la dernière version de 2018 et qui reprennent les plus célèbres thèmes anciens ou récents de Nintendo & Co. pour le plus grand bonheur des joueurs et des plus nostalgiques d'entre nous. Ma sélection s'est cependant arrêtée sur le thème titre, comme souvent maintenant dans cette émission, et qui donne le la quant aux enjeux des batailles à venir. Nous écoutons donc Super Smash Bros. Ultimate Theme dans son arrangement orchestral par Gaming World. Il est temps maintenant de quitter le monde des jeux de combat, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas que dans ce type de jeu qu'un joueur est amené à se confronter dans diverses batailles. Après tout, la bagarre, c'est une des essences du jeu vidéo. Mais à vrai dire, il me serait impossible de brosser dans cet épisode des manettes à la baguette tous les portraits musicaux des jeux où il y a une confrontation possible. Je vais quand même poursuivre avec quelques extraits qui me paraissent suffisamment éloquents et divers pour notre thème. Le prochain titre m'a été soufflé par un de nos contributeurs Gameo, pour ne citer que son avatar, et qui nous amène fort intelligemment sur le terrain des action games, c'est-à-dire des jeux d'aventure d'action. Certains répondent à la catégorie des RPG ou role-playing game, avec une évolution constante des caractéristiques des personnages selon les choix que vous faites, et d'autres ont des mécaniques plus simples et n'attendent de vous que des compétences en gameplay que l'on nomme skills ou aptitudes. Le mot « action » ou « action » vient de la grammaire qu'on peut retrouver dans les jeux de plateforme à la Mario où votre personnage saute et se déplace en fonction des difficultés ou obstacles affichés à l'écran. La narration de ces jeux peut être riche et fort longue et la foultitude d'univers qu'ils proposent tutoie aisément l'infini. Le choix de notre contributeur s'arrête sur un style que j'affectionne grandement et qu'on le retrouvera souvent dans cette émission, le rétropixel, c'est-à-dire un jeu récent qui reprend les codes visuels des anciennes consoles. Si cette esthétique touche le design, elle touche aussi la musique qui va se faire entendre comme si elle avait été composée avec des limitations techniques de puce. Cette puce, c'est le chipset, avec pour unité de calcul les bits, d'où l'appellation spécifique des consoles par génération, console 8 bits, 16 bits, 32, etc. Le style musical qui découle de cette approche s'appelle le chiptune et fera l'objet d'un ou de plusieurs épisodes, comptez sur moi. Mais pour le moment, Gameo vous a sélectionné une musique de combat évidemment, issue du jeu Shovel Knight, un succès indépendant sorti sur la quasi-totalité des consoles actuelles et qui a fait l'unanimité mondiale des critiques spécialisées. Devenue une licence à succès, sa dernière itération Shovel Knight Dig s'inscrit elle aussi dans l'esthétique 16 bits pour poursuivre la logique évolutive dont je viens de vous donner quelques lignes auparavant. Bref, entendu dans la bande originale du premier opus, nous allons écouter The Skimmer, la première partie du combat contre Tinker Knight, composée par le génial Jake Kaufman. Je viens d'évoquer les RPG. Considérés comme le style divin et absolument parfait du jeu vidéo par certains, et notamment par nos contemporains asiatiques, les RPG ou JRPG sont de véritables aventures riches et sophistiquées. Le plus souvent déterminées par les choix des joueurs, que les modes scénaristiques soient linéaires, narratifs, ouverts ou online, ces jeux offrent d'incroyables histoires plongées dans des mondes fantastiques de toutes les natures et de toutes les formes. Si j'ai parlé en préambule de notre épisode d'une des reines de la musique du jeu vidéo, il faut citer l'homme qui est considéré comme un roi du genre, si ce n'est une des divinités majeures et primordiales de la musique de RPG. Je parle bien évidemment de Nobuo Uematsu, qui a littéralement propulsé la série des jeux Final Fantasy au sommet stratosphérique qu'on lui connaît aujourd'hui. Des centaines de concerts à travers le monde, sa musique a été jouée internationalement partout, il a été la source d'inspiration d'une incroyable diversité de compositeurs, plus talentueux les uns que les autres. Encore une fois, il me faudrait une vingtaine d'émissions pour réussir à vous livrer l'excelsior de son art. Et pour la thématique qui est la nôtre ce soir, je me dois de vous dire qu'il s'est particulièrement distingué en rendant les musiques de combat dans les jeux RPG iconiques et légendaires. Il a même fondé par la suite un groupe de métal, les Black Mage, pour jouer ses musiques de combat dans de nombreux concerts qu'il a menés. Bref, le combat dans un RPG, c'est essentiel, car l'on est amené à combattre extrêmement souvent dans des phases dédiées, afin non seulement d'augmenter le niveau de ses personnages, mais aussi de triompher sur des ennemis particulièrement retors, et que l'on retrouve à la fin de séquences de jeu comme point d'orgue. Je parle évidemment des boss. Ces ennemis caractéristiques qui clôturent des phases de jeu sont souvent illustrés musicalement avec le plus grand soin dans le but de faire saisir au joueur toute l'importance de la bataille qu'il est en train de mener. Et on peut le dire, le maître Nobuo Uematsu a su imprimer toutes ses rencontres dans la mémoire de plusieurs générations de joueurs à travers des jeux dont il a signé les bandes originales. Nous écouterons un titre issu d'un remake que beaucoup attendaient sans jamais plus y croire, Final Fantasy VII Remake, sorti le 10 avril 2020 et qui se comptera comme une trilogie. A noter, la partie 2 est sortie en juin de l'année dernière et la conclusion devra sortir cet hiver. Final Fantasy VII est clairement un jeu de légende pour avoir fait entrer le RPG avec succès dans la 3D, mais également la licence Final Fantasy dans la postérité. Les titres précédents étaient tous émérites, mais les suivants continueront de déchaîner les passions pendant bien des années suivantes, jusqu'au dernier titre en date. Si aujourd'hui Nobuyu Matsu s'est retiré de chez Square Enix, le développeur original, il n'en demeure pas moins attentif à ce qui est fait des thèmes et des musiques qu'il a produits et composés pour le jeu. Il était donc tout naturel de le retrouver dans cet opus remake où il partage la baguette avec deux arrangeurs récurrents de la série en la personne de Masashi Amozu, que l'on voit apparaître dès le 10e opus, et Yasunori Nishiki, un autre habituel des JRPG. Voici donc venu le moment d'écouter ce morceau de bravoure qu'est One Winged Angel Rebirth, soit l'ange à une aile et sa renaissance. Un morceau de combat épique, une véritable montagne d'arrangements orchestral avec grande chorale et section rock comme il se doit. Nommé classique parmi les classiques par tous les commentateurs depuis 1997, vous l'entendrez ici dans sa version longue tirée du jeu. Pour terminer cette émission, je dois d'abord vous dire qu'elle était dédiée à un célèbre smasher qui s'appelle Vector, et c'est le seul smasher encore vivant de 1m60. Je vais vous proposer en dernière musique l'archétype même de la musique de combat dans un ultime extrait que nous écouterons et qui m'a été suggéré par ma contributrice Sixtine. Il s'agit du jeu vidéo Street of Rage, un véritable hit. Dans cette émission, j'ai évoqué plusieurs fois les anciennes consoles et leurs limitations. Il en fut une dont la maîtrise musicale matricielle n'était réservée qu'à une élite, la Sega Mega Drive. Dans cette élite, on peut évidemment parler de Yuzo Koshiro, un compositeur qui fut l'un des premiers à intégrer les styles house, dance et techno dans les bandes originales de la période 32 bits avec Street of Rage. Il a marqué toute une génération de joueurs, rendant cool et très branché ce type de jeu où il s'agit d'avancer de gauche à droite en dézinguant tout ce qui se présente. Un style que l'on nomme beat 'em all, faux anglicisme de beat 'em up, qu'on peut traduire aisément par frapper les tous. Pour terminer en beauté donc, je vous dis au revoir avec le célèbre Fighting in the Street, issu de Street of Rage sorti en 1991 sur Sega Mega Drive et véritable hit.